La Grèce et Israël, l'affrontement des cultures, ça ressemble un peu au sujet de la deuxième partie de l'exposé du professeur Gross, mais nous allons aborder cela sous un autre plan. Et là, je voudrais faire quelques petites remarques historiques, parce que très souvent, quand on parle de l'affrontement entre Israël et la Grèce, eh bien, on se dit que ben c'était tout bête, il y a eu un affrontement parce que les Juifs ils ont des idées et les Grecs ils ont d'autres idées, ben c'est pour ça que ça n'a pas été, qu'on s'est entendu très mal. Voilà. Et finalement, ben on les a eus. Hein, voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas un jeu de mots. Enfin, j'ai pas fait exprès en tout cas. Oui, j'ai même pas fait exprès. Bon, en tout cas, quand on parle de la rencontre entre Israël et la Grèce. Il faut savoir qu'il s'agit d'une période assez longue. Il s'agit de près de 200 ans de domination grecque sur le Proche-Orient jusqu'à l'époque de Hanouka. 200 ans, c'est quand même assez long. 12 ans, enfin, d'après la tradition juive, d'après le compute des Juifs, il s'agit de 12 ans de domination d'Alexandre le Grand, suivi de 180 ans de deux empires grecs, hein, enfin essentiellement deux empires grecs, qui ont dominé Eretz Israël. La première partie essentiellement les Ptolémées, qui avaient pour capitale Alexandrie, et la deuxième partie les Séleucides, qui avaient pour capitale soit Séleucie, soit Antioche. Et Antiochus, qui était un roi séleucide. Cléopâtre, par contre, était une Ptolémée. En tout cas, ça a duré pendant assez longtemps, et il ne faut pas s'imaginer que pendant toute cette période, il y a eu un affrontement entre les deux civilisations. Le contraire est vrai sur le plan historique. Ce que nous savons, ce que l'histoire nous transmet, ce que les chroniques nous rapportent, c'est que la première réaction des Grecs lorsqu'ils ont rencontré Israël a été une admiration extraordinaire. Ils en ont été épatés. Hérodote, par exemple, l'historien grec, quand il parle des Juifs, qu'il désigne comme les Syriens de la côte philistine, ou un truc de ce genre, qui ont appris la circoncision chez les Égyptiens, enfin c'est très confus chez lui, il dit, c'est un peuple de philosophes qui vivent à Jérusalem. Voilà. Comment? Un peuple de philosophes qui vivent à Jérusalem. C'est ça qu'il dit. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il dit qu'ils ont un jour par semaine où ils ne parlent que de sagesse. Alors vous comprenez que pour un grec, le philosophe, c'est le sommet de la pyramide. Un peuple de philosophes, c'est totalement impensable pour un grec. C'est-à-dire, c'était une admiration extrêmement forte. Nous avons également un autre cas. Vous savez que les Juifs ne sont pas mentionnés dans les écrits ni de Platon ni d'Aristote, mais un élève d'Aristote du nom de Cléarque raconte la rencontre dont il a été témoin entre Aristote et un Juif. Le Juif en question s'appelait, d'après Cléarque, il s'appelait Simon. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse en fait de Shimon HaTzadik, mentionné dans la Mishnah, qui vivait effectivement à cette même époque. Et Aristote était très étonné, enfin, a été très bien impressionné par la sagesse de ce juif, qui, dit-il, était tellement sage qu'on l'aurait pris pour un grec. Alors là déjà, vous voyez naître un peu ce dont a parlé le professeur Benoît Gross tout à l'heure, c'est que il y a cet impérialisme. C'est-à-dire, je t'admire parce que tu es comme moi. Il y a un peu de ça. Mais enfin, quand même, c'est de l'admiration. Mais l'événement le plus important de cette époque, c'était lorsque la Torah a été traduite en grec. Il y a un livre dans les apocryphes qu'on appelle la lettre d'Aristée, la lettre d'Aristéas à Philocrate, et dans laquelle on raconte quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'Aristée à Philocrate, je rigole pas, c'est vrai, hein. Bon, eh bien. C'est une lettre très longue, c'est un livre entier dans lequel on raconte l'initiative du roi Ptolémée de l'époque, Ptolémée II Philadelphe, qui a demandé au grand prêtre Élazar de Jérusalem de lui envoyer 70 sages pour traduire la Torah en grec. Et il faut bien comprendre, l'atmosphère dans laquelle est écrit ce livre, c'est une atmosphère de fête. C'est une grande joie de voir la Torah enfin traduite en grec. C'est merveilleux. Il fait un festin en l'honneur des 70 sages, qui étaient en fait 72, qui ont écrit la traduction qu'on appelle la traduction des 70, parce que 70 veut dire 70 en belge. Et non, c'est vrai. Ce qui prouve d'ailleurs que les Belges existaient déjà à l'époque. Et donc, c'était merveilleux pour lui. Et donc, c'est pas du tout évident que les Grecs, au début, étaient les ennemis des Juifs sur le plan de la culture. D'ailleurs, dans Rashi, on nous parle au départ quand on parle de Ésaü et de Jacob, qui étaient dans le ventre de leur mère, alors, on dit « Shnei goyim bevitner ». Or, le mot « goyim » est écrit d'une manière un peu particulière, au lieu d'être écrit comme il est écrit d'habitude, « gimel vav yud mem », il est écrit « gimel alef yud mem », ce qui veut dire « des géants »,« geim ». C'est-à-dire, deux géants sont dans ton sein, et Rashi amène l'enseignement des Chachamim qui dit ben, « les géants en question, c'est Rabbi et Antoninos ». C'est-à-dire, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, et Antoninos, c'est Antonin, soit Marc Aurèle, soit Antonin le Pieux, en tout cas, un empereur romain et philosophe, qui était ami personnel de Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est comme si on voulait nous dire, à l'origine, on aurait pu s'arranger. C'est-à-dire le représentant de la civilisation hellénistique et romaine, Marc Aurèle, roi philosophe, stoïcien d'ailleurs, aurait très bien pu s'entendait très bien avec Rabbi Yehuda Hanassi, dépositaire de la Torah de Moshe, et donc un contact de ce genre est possible. Une collaboration est possible, éventuellement, entre la Grèce et Israël. Et puis très rapidement, ça dégénère. Parce qu'on dit, lorsque ça devient deux nations qui sortent de tes entrailles, eh bien ils se séparent l'un de l'autre, et ils se font la guerre l'un à l'autre, ils sont rivaux. Mais à l'origine, quelque chose aurait peut-être pu marcher, il faut peut-être comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui aurait pu marcher et pourquoi ça ne marche pas. Rappelons une chose, c'est que le récit de la traduction de la Torah en grec est rapporté également par la tradition talmudique, mais d'une manière très différente de la lettre d'Aristée. Alors que dans la lettre d'Aristée, c'est considéré comme un événement heureux, d'ailleurs qui a réjoui très profondément les juifs hellénisés d'Alexandrie. Vous savez que pendant des siècles, les juifs d'Alexandrie lisaient la Torah en grec et faisaient la prière en grec. Ils faisaient le schéma Israël en grec. Et bon, il en est resté quelques petites traces dans la halakha, mais enfin aujourd'hui ça a disparu. Mais enfin, il faut bien comprendre que les juifs d'Alexandrie étaient très heureux. Et le Talmud raconte la position des juifs de Jérusalem, qui dit que ça a été un malheur pour Israël, que c'était un jour aussi dur que le jour de la jour où on a fait le veau d'or, et que l'obscurité a recouvert le monde pendant trois jours. Il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde après cette histoire. Donc on voit qu'il y a une position extrêmement négative du Talmud par rapport à la traduction de la Torah en grec, et on ajoute une toute petite note. She'en a Torah yechola li'targem kol tzorka, parce que la Torah ne peut pas être traduite comme il faut. Et donc c'est grave de la traduire en grec. D'une certaine manière, ici, un dialogue de sourds. L'admiration que portaient les Grecs pour Israël est considérée comme négative par Israël même. Par exemple, vous savez, le Midrash qui a été cité très rapidement à la fin de la conférence du professeur Gross, à propos du Tohu Vavohu Vechosher, quand on dit Tohu c'est Babel, Bohu c'est la Perse et Chosher c'est la Grèce, quand j'entends dire que Chosher c'est l'obscurité, c'est la Grèce, je me dis que les rabbins sont des vrais obscurantistes. C'est-à-dire, comment, de toutes les civilisations qui sont apparues sur Terre, on a décidé de désigner la Grèce comme étant l'obscurité? Il y a des barbares un peu partout dans le monde. Alors pourquoi avoir désigné la Grèce plus qu'une autre comme étant l'obscurité? Ils sont fous ces rabbins. C'est-à-dire que c'est la Grèce qui a amené la lumière de la science, de la philosophie, de la démocratie, de l'esthétique. Tout ça, ça vient de Grèce. Alors si déjà, on devrait dire, lumière, c'est la Grèce. Et là on dit, c'est l'obscurité qui est la Grèce parce que ça obscurcissait les yeux d'Israël. C'est comme si, en fait, la tradition talmudique voulait nous dire qu'une lumière en obscurcit une autre. C'est justement parce que la graisse est une lumière qu'elle est pour nous obscure, parce qu'elle obscurcit notre lumière. Alors il faut comprendre de quoi il s'agit. Revenons à nouveau à ce qu'ont pensé les Grecs d'Alexandrie lorsqu'ils ont voulu traduire la Torah. Eh bien, ils se sont dit, c'est extraordinaire. Vous autres, les Juifs, vous avez amené une contribution merveilleuse à la civilisation universelle. C'est dommage que c'est écrit en hébreu, parce que c'est une langue qui n'est pas accessible à tout le monde. Nous allons enfin sauver de l'oubli votre patrimoine. Nous allons le traduire dans la langue de la civilisation universelle, le grec. Et vous en faites pas, on va lui donner une place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ça sera sur les mêmes étagères que les œuvres de Platon et d'Aristote. Vous vous rendez compte l'honneur que c'est pour un grec de mettre un livre qui n'est pas grec, qui vient d'un peuple barbare, le mettre au rang des philosophes. Pour les juifs, c'était absolument inadmissible. Parce que si on dit cela, ça veut dire que la Torah n'appartient pas à Israël, et ça veut dire que la Torah est une sagesse. Et en fait, les deux sont liés l'un à l'autre. En effet, si la Torah est une sagesse, ben elle appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde, non, la sagesse. Par exemple, lorsque la loi de la gravitation a été découverte par Newton, hein, vous savez ce que c'est la loi de la gravitation? C'est quand des clés peuvent tomber. Mais en vérité, c'est des pommes. Oui, c'est les pommes qui tombent. C'est les pommes qui tombent, et d'ailleurs, pas loin du pommier. Et oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais non, si Newton est endormi sous l'arbre, il risque d'être assommé par la pomme qui tombe, en écrasant une coccinelle au passage. Mais en tout cas, quoi, c'est vrai, non? Mais en tout cas, les lois de la gravitation ne sont pas anglaises. C'est-à-dire qu'il est vrai que Newton était un Britannique, mais il n'y a rien de britannique dans la loi de la gravitation. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut être un très bon physicien et apprendre les lois de Newton sans savoir qui est l'auteur de ces lois. Parce que Newton n'a fait que lire dans le livre du monde. Et c'est tout à fait par hasard qu'il était britannique. Et donc, si la Torah est une sagesse, les Grecs ont raison, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. La Torah, c'est quelque chose d'universel, les Juifs n'ont rien à y voir. Et il y a d'ailleurs, disons, l'idée grecque, finalement, c'est qu'il y a une culture universelle dont chaque culture est un cas particulier. Il y a des Grecs grecs, il y a des Grecs égyptiens, il y a des Grecs juifs. Et donc, le fait que vous ayez un folklore particulier ne justifie pas une différenciation par rapport à tout le reste du monde. C'est-à-dire que la culture hellénistique n'était pas totalement impérialiste, elle n'était pas uniformisante. La culture hellénistique admettait tout à fait qu'il y avait des particularités nationales. Mais les particularités, ce ne sont qu'une particularité d'un schéma général. C'est-à-dire qu'il y a une grande culture à laquelle la Grèce a déjà accédé, et puis les autres sont des cas particuliers. On peut être phénicien, c'est-à-dire grec d'une manière phénicienne, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a l'héritier de cette idée-là, c'est l'impérialisme culturel américain, qui considère que tout homme sur Terre est un Américain qui soit s'ignore, soit le sait déjà. Vous savez que tous les hommes sont des Américains. La preuve, c'est que tous boivent du Coca-Cola ou en boiront. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec la Chine populaire, du temps du président Nixon, la première expression, le premier symptôme de l'établissement de ces relations, c'était l'envoi d'un container de Coca-Cola en Chine. Ça prouve à quel point les lois de la cacheroute sont importantes. Parce que on est ce que l'on boit et ce que l'on mange. Et c'est pour ça que la Torah nous a dit, ne mangez pas ce que les goïms mangent. Parce que sinon, vous serez comme eux. Et c'est-à-dire, et le monde entier boit le Coca-Cola, et le Coca-Cola est même cachère. Ce qui pose un problème. C'est-à-dire, on devrait trouver un moyen d'interdire aux Juifs de boire du Coca-Cola. Ou en tout cas, de dire certains jours, c'est-à-dire un jour oui, un jour non, aujourd'hui non. Comment ça? Ah oui, il y a un faux Coca-Cola arabe. Meca-Cola. Mais c'est dégueulasse. Bon, en tout cas, donc pour les Grecs, étant donné que la Torah est une sagesse, elle appartient à tout le monde, les Juifs n'ont rien à y dire. Et donc, d'une certaine manière, les Grecs ont accompli de cette manière, dans leur admiration pour la Torah, en fait, ont fait la pire des choses qu'ils pouvaient nous faire. C'est-à-dire que les persécutions d'Antiochus n'étaient rien comparées à l'admiration des Grecs pour la Torah. Les persécutions d'Antiochus, en fait, n'étaient que la conséquence de cette admiration. Parce que les Juifs ont dit, non, nous, on ne veut pas, justement, être confondus dans la masse. Alors les Grecs ont dit, alors ça c'est intolérable. Et il y a dans le texte de Al-Anissim, la prière que nous disons à Hanouka, il y a une petite variante qui est très importante et sur laquelle va du tout fonder tout un enseignement. Vous savez que on dit que Sheamda Malchut Yavan Arecha'a Lamcha Israël, lorsque l'empire scélérat de la Grèce s'est levé contre ton peuple Israël, Leha. Alors c'est quoi la suite? Alors vous avez ici deux versions. Il y a la version qui a été retenue par les Ashkenazim, c'est Leashkiham Torah Techa, pour leur faire oublier ta Torah. Ça veut donc dire que les Grecs en avaient contre la Torah. Mais la version séfarade, c'est Leshakeham Mit Torah Techa. C'est les faire disparaître de ta Torah. Ce qui veut dire que la Torah est voulait être conservée par les Grecs, mais sans les Juifs. En fait, c'est l'origine du christianisme. C'est-à-dire, c'est déjà en filigrane ce que les chrétiens ont voulu faire, adopter la Torah sans Israël. Déjà, chez les Grecs, il y avait ça. Vous êtes merveilleux, vous avez eu la chance de transmettre quelque chose au patrimoine de l'humanité, maintenant vous pouvez disparaître. Leshakeham mitorah terra. Une petite remarque, dans les sidourim nouvellement imprimés par des sfaradim, le même a disparu. Pourquoi? Parce que les imprimeurs avaient des difficultés à comprendre sur le plan grammatical ce que ça veut dire, Leshakeham mitorah terra. Alors ils ont inventé une nouvelle version, Leshakeham torah terra. Ce qui est absolument absurde, parce qu'il y a une suite à cette phrase, c'est Ulha Aviram Mir Huker Etzonecha. Alors si déjà, on devrait dire Le Aviram Al Huker Etzonecha. Alors vous en faites pas, dans les prochaines éditions, ça sera supprimé aussi. D'accord? C'est toujours le problème des imprimeurs qui sont persuadés qu'ils connaissent mieux que tout le monde. En tout cas, je tiens à rappeler que la version avec le même, c'est la version quand même de Rabbeinu Saadia Gaon, et la version sans le même, c'est la version de Rabbi Amram Gaon. Donc ce sont des textes très anciens, vieux de plus de 1000 ans déjà. En tout cas, donc on ne peut pas supprimer ça n'importe comment. En tout cas, je reviens ici. Les Grecs ont voulu donc supprimer Israël de la Torah. Ils se sont basés d'ailleurs là-dessus sur un précédent juif. Le précédent juif, hein, de cette idée de fusionner avec la culture universelle, on le trouve déjà chez un de nos ancêtres, Yosef, dont nous lisons les parachiotes, justement, à l'époque de Hanouka. Yosef est justement l'archétype de ce juif qui se fond dans la masse égyptienne, qui va contribuer de toutes ses forces à la réussite de l'Égypte. Or, Yosef est appelé dans la tradition Shor. C'est comme ça que Moshe appelle Yosef, Shor, c'est un bœuf. Et donc, ça explique, selon le Rav Kook, pas selon le Maharal et le Rav Utner, mais enfin selon le Rav Kook quand même, cette traduction, cette injonction des Grecs, écrivez sur la corne du bœuf que vous n'avez rien à faire avec le Dieu d'Israël, ça veut dire, prenez exemple sur Yosef, votre ancêtre, qui vous a déjà montré la voie de l'assimilation. Et bon, l'erreur était que Yosef se déguisait en Égyptien. Il restait profondément hébreu, et la preuve, c'est que lorsque c'est arrivé à l'épreuve de la femme de Potiphar, eh bien, il a refusé. Et il faut comprendre pourquoi est-ce que les Grecs ont tort. Pourquoi est-ce que la Torah ne serait pas considérée comme une sagesse universelle, hein? Eh bien, tout simplement parce que la Torah n'est pas une sagesse. La Torah est une parole. C'est la parole du Créateur du monde qui s'adresse à quelqu'un. Alors que la sagesse est impersonnelle, par définition, la Torah est la parole d'une personne à une autre personne. Il y a un verset qui revient souvent dans la Torah, je crois. Si je me trompe, c'est Vaïdab. Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Ah, c'est ça. Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, qui veut dire que quelqu'un s'est adressé à quelqu'un d'autre pour qu'il dise à encore une troisième personne. C'est donc une parole. Une parole, par définition, est adressée à quelqu'un. Donc si je ne suis pas la personne à laquelle cette parole est adressée, ça ne me concerne pas. Ou en tout cas, je suis un témoin de l'extérieur. Or, comme les Juifs savaient que la Torah était une parole, ils ne pouvaient pas considérer que c'était une sagesse. Donc ils ont refusé d'être fondus dans la masse d'une autre identité, celle des Grecs. Alors évidemment, comme l'a très bien dit le professeur Gross tout à l'heure, un argument de ce genre ne pouvait pas se faire entendre tant qu'il y avait des prophètes. Non pas parce que le prophète disait qu'il parlait au nom de Dieu, mais c'est parce que tout le monde entendait Dieu parler au peuple juif. C'est-à-dire tout le monde avait été témoin, les goyim étaient témoins, du fait qu'il y a une révélation particulière du Dieu d'Israël qui s'adresse à Israël. Et donc, il ne venait à l'idée de personne de penser que ce que ce Dieu disait à son peuple était cosmopolite, était égal pour l'humanité tout entière. Ce n'est qu'à partir du moment où la prophétie a cessé que la question s'est posée. Alors on disait, bon c'est vrai, nos ancêtres étaient des prophètes, mais maintenant que la prophétie a cessé, peut-être que les paroles que Dieu a laissées à notre peuple ne sont que de la sagesse. C'était ça, hein, si vous voulez, l'inquiétude de nos ancêtres lors de la guerre contre les Hachmonaïs. Non, contre les Grecs, bien sûr. Lorsque nos ancêtres ont lutté contre les Romains, contre les Grecs, oh là là, c'est l'heure. Bon, c'est lorsque nos ancêtres ont lutté contre les Grecs que s'est posée la question de savoir si, bon, c'est vrai qu'on a la victoire militaire, on leur est rentré dedans, d'accord, mais est-ce qu'ils n'ont quand même pas raison? C'est ça l'inquiétude de Hanouka, vous comprenez? C'est pas tout d'avoir gagné la guerre, parce que parfois les Grecs gagnent la guerre, parfois c'est nous qui la gagnons. Mais est-ce que ça veut dire que ce que disent les Grecs sur la civilisation en tant qu'une civilisation universelle qui engloberait toutes les civilisations, est-ce qu'ils n'ont pas raison quand même? Très souvent, on peut entendre même des rabbins essayer de justifier le judaïsme par rapport à l'échelle de valeur de l'Occident. Parce qu'il y aurait une sorte d'échelle de valeur absolue par rapport à laquelle il faudrait mesurer tout, y compris le judaïsme. Et alors, on s'est demandé effectivement si on avait raison. Eh bien, la réponse, c'était la fiole d'huile. Justement, la fiole d'huile a été nécessaire pour qu'il y ait un témoignage, même après l'époque prophétique, qu'il y a une présence de Dieu parmi Israël. C'était ça, donc, l'importance de ce miracle, pour qu'on ne se fiche pas de notre fiole. C'était important, donc, que l'on sache qu'il y a une présence... Pourquoi vous rigolez ? C'est important de comprendre qu'il y a une présence de Dieu en Israël. Bon, tout cela est très joli, mais ça pose un très grave problème. Et là, c'est, je renonce d'ailleurs à exposer tout ce que je voulais vous dire ce soir, mais c'est pas très grave, parce que là, je voudrais toucher à un point assez grave. C'est, comment se fait-il que l'État qui a été fondé par les Hachmonaïm soit devenu un État hellénistique? C'est quand même surprenant. Parce que la dynastie des Hachmonaïm, il suffit de voir leur nom. Au début, ils ont des très beaux noms. Matityahu, Yohanan, Yehuda, Shimon, Yonatan. Tout ça, ce sont des très beaux noms. D'ailleurs, c'est de l'hébreu. Vous passez une génération après, vous tombez sur un roi qui s'appelle Yehuda Aristobulos. Bon, il s'appelle quand même Yehuda. Mais enfin, Aristobulos, c'est pas très juif. Et puis vous continuez une génération après, vous tombez sur Alexander Yanai. Alors, déjà, il a un nom grec celui-là. Mais enfin, le deuxième nom, Yanai, c'est un diminutif de Yonatan, il y a quand même encore un peu de l'hébreu là-dedans. Et puis vous avez sa femme qui règne après lui, qui s'appelle aussi Alexandra Shlomtzion. Bon, on est prêt à avaler. Puis après vous arrivez encore à la quatrième génération, alors là ça devient Horkanos, Aristobulos, Antigonos. Ah bon? C'est quoi ça? C'est des juifs, ils sont grands prêtres, ils sont rois. Ils siègent parfois dans le Sanhédrin. mais ils sont avalés par la culture grecque. Alors ça, c'est d'ailleurs, ils deviennent des sadducéens, c'est-à-dire c'est une manière d'être orthodoxe à la grecque. Vous voyez ce que je veux dire? Et la question se pose, pourquoi tu rigoles? C'est la vérité pourtant. Bon, eh bien, on peut se demander comment ça se fait que justement, eux, qui ont été une famille grandiose, ils se sont fait tuer, là, toute la première génération s'est fait massacrer par les Grecs pour sauver le judaïsme, et puis eux deviennent des hellénisants. Là, je voudrais rentrer dans un petit détail, mais enfin, c'est une chose qu'on ignore un peu. C'est que la culture grecque, à la limite, on ne peut pas y échapper. Parce que c'est ce qu'on appelle la culture générale. Ça veut dire quoi, la culture générale? Ben, c'est la culture qui permet de vivre sur Terre. C'est la science politique. Et c'est la science tout court. Et c'est l'esthétique. Tout ça, ça fait partie de la vie. Ça s'appelle comment, ça, dans la tradition juive, toutes ces choses-là? Le hol, exactement, le profane. Or, les Hashmonaïm étaient quoi? C'était des Kohanim. Les Kohanim sont des hommes du Kodesh. Ce sont des hommes de Kodesh. Et ce n'est pas pour rien que la Halakha ne permet pas à des Kohanim de régner. Parce que quand on est Kohen, on est prêt à sacrifier sa vie pour le Kodesh, mais dès qu'il s'agit de gouverner et donc de s'impliquer dans le rôle, on y perd les pédales. Et alors on est obligé, finalement, d'adopter le rôle que les Grecs viennent nous proposer. Tout ça parce qu'il y a eu un refus du rôle au départ. C'est-à-dire, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Les premiers Hashmonaïm devaient lutter contre des collaborateurs avec la domination étrangère. Ils étaient bien obligés, donc, d'en finir avec tous leurs ennemis, y compris avec tout ce que la culture grecque représentait. Mais ils n'avaient pas de rôle alternatif à proposer. Tandis que si c'était des rois de la dynastie de David, eh bien, ça aurait été très différent. Parce que les rois de la dynastie de David, ce ne sont pas des Kohanim, justement. Ce sont des hommes impliqués dans le réel, qui, eux, ont une culture profane à sanctifier. Ils la connaissent. Mais à partir du moment où les Kohanim, des hommes de religion, ont décidé de prendre le pouvoir politique, ils ont empêché le rôle spécifique d'Israël de se développer. Et c'est pour cela que finalement, c'est le rôle des Grecs qui l'a emporté et que l'état des Hashmonaïm est tombé. Et là, ça va très loin. Parce que ça voudrait dire des choses très importantes. Je pense qu'il y aurait même des conséquences au niveau d'actualité. C'est vrai que les rabbins doivent se mêler de politique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont des rabbins. Pour se mêler de politique. Mais est-ce que le pouvoir politique, la direction de la société doit être entre leurs mains? Eh bien, la tradition d'Israël nous dit que non. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un roi en Israël, c'est-à-dire un pouvoir politique, qui s'occupe du rôle. Et c'est quand il y a le Kodesh et le Chol côte à côte, si vous voulez, en alliance entre eux, qu'il y a la présence de Dieu véritablement sur Terre. C'est une banalité, on connaît ça, que le régime politique d'Israël est formé de quatre institutions qui sont les initiales de Mishkan, Meler, Shofet, Kohen et Navi, c'est-à-dire le politique, le législatif, le prêtre et le prophète, et les quatre à la fois sont le Mishkan, c'est-à-dire le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu. On peut dire que si les Hashmonaïm se sont occupés exclusivement de Kodesh, eh bien ils sont tombés dans les mains du Chol. Oui ?
On n'a quand même pas, par tradition, on n'a jamais reçu de Chol spécifiquement juif. Tout le Chol qu'on a, il a toujours été grec, universel.
Il y a ce qu'on appelle, je reprends votre question, tout le Chol que nous avons a toujours été d'origine extérieure. Il y a ce qu'on appelle Derech Eretz. C'est-à-dire la manière de vivre sur Terre. Or, chaque peuple a son Derech Eretz. Il y a le Derech Eretz d'Israël, il y a le Derech Eretz des nations. Il y a eu, justement, en Allemagne, au XIXe siècle, il y a une tentative de ce genre, celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, de développer ce mouvement qu'on appelait Torah im Derech Eretz, ou plus précisément, Tauro im Derech Eretz, parce que ça se prononçait avec l'accent allemand. Et justement, Manitou faisait remarquer cela, quand les Juifs d'Allemagne parlaient de Torah im Derech Eretz, ça voulait dire avoir la Torah et être allemand. C'est-à-dire, c'est le Derech Eretz de l'Allemagne. Mais il y a un Derech Eretz particulier à Israël. Et il faut le laisser se manifester, justement, en laissant les Juifs parler. Si les Kohanim prennent le pouvoir, ils empêchent le commun du peuple de s'exprimer. Et c'est pour ça que finalement on n'entend qu'un son de cloche du Kodesh, alors qu'il y a un Kodesh qui est naturel au peuple juif qui doit se manifester. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la science des nations, au contraire, nous étudions la sagesse des nations, mais comme disait le Rav Harlap, le Maïmonide a converti Aristote. C'est-à-dire, en l'introduisant dans le Beit HaMidrash, eh bien il l'a converti. À tel point qu'il y a des expressions d'Aristote qui sont employées par les rabbins, ils ne savent même pas que ça vient d'Aristote. Par exemple, les expressions de Homer, Tzura, tas de choses de ce genre, Siba, ce sont des expressions aristotéliciennes. Mais enfin, personne ne le sait, à part ceux qui sont dans cette salle, je vous demande de ne pas le révéler aux autres. D'accord ? Donc, il y a ce problème très grave, justement, donc de la relation envers le Chol, qui a commencé à se faire sentir à l'époque des Hashmonaïm et que nous devons régler de nos jours également. Je voudrais peut-être rajouter encore une petite remarque, quelques petites remarques seulement. Je vous assure, je vous promets de vous libérer très bientôt parce que je sais que vous avez un Shabbat et des bougies de Hanouka à préparer. Oui, un Shabbat et des bougies de Hanouka. Des lumières de Hanouka à préparer. Hein? C'est pas vrai ce que je veux dire? Ouais. Bon, rappelons un petit détail d'ailleurs pour les Sfaradim, l'heure de l'allumage des lumières, c'est avec le coucher du soleil, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire. Bon, ça c'est tout à fait, c'est pour un cours de halakha. Comment? Non, on a, bah, vendredi soir, quoi? Ben, avant Shabbat, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça, tout le monde est d'accord. Et après Shabbat, de toute façon, vous êtes bien obligé de faire après l'Avdala. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf à la synagogue où on allume avant l'Avdala. Bon. Je voudrais faire une petite remarque. Vous savez que le Maharal de Prague explique qu'il y a quatre empires et que la Grèce représente cette partie qu'on appelle le Sehel, justement. N'est-ce pas? Le Maharal reprend une division de l'homme en trois parties. Cette division vient de Platon. C'est la division de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. N'est-ce pas? Ce qu'appelle Gouf, Nefesh, Vesechel. Et que l'affrontement entre Israël et la Grèce, c'est au niveau du Sehel. Ça, effectivement, comme l'a si bien souligné le professeur Gross, c'est ce que dit le Maharal dans son livre Ner Mitzvah, son livre sur Hanouka. Comme c'est un livre plus court que son livre sur Pourim, alors il est plus étudié que le livre sur Pourim. Mais dans le livre sur Pourim, le Maharal reprend son analyse. La même analyse qu'il fait dans son livre sur Hanouka, il la reprend dans son livre sur Pourim, au Hadash, et il explique également les quatre empires, mais d'une autre manière. Il explique les quatre empires comme correspondant aux quatre empires que Daniel a vu dans son... que Nebuchadnezzar a vu dans son rêve et que ce rêve a été interprété par Daniel. Là-bas, vous avez quatre... Non, pas quatre bêtes, pas du tout. Il y a là-bas une statue. Non, il y a une statue, un colosse. Un colosse que voit le roi de Babylone. Il n'y a pas plus que 5 minutes, hein, vous en faites pas. Le roi de Babylone... Vous savez, quand un orateur dit « je vais bientôt finir », ça veut dire qu'il y en a encore pour longtemps. Le roi de Babylone voit dans son rêve un colosse. Le colosse est fait de quatre métaux. Le métal dont est fait la tête, c'est de l'or. La poitrine et les mains sont faites d'argent. Les hanches sont faites de cuivre. Et les pieds sont faits de fer mélangé d'argile. C'est ce qu'on appelle un colosse au pied d'argile. Et puis après, une petite pierre se détache d'une montagne qui tombe sur les pieds d'argile. Et tout le colosse s'écroule, et une montagne remplace tout cela. Bon, ça c'est... Alors, Daniel explique au roi, ce que tu as vu, c'est les quatre empires. La tête d'or, c'est toi, puisque tu es babylonien. Babylone, c'est de l'or. Après viendra un autre empire, c'est les Perses, ils sont comme de l'argent. Et les hanches de cuivre, c'est la Grèce. Et puis après, le fer mélangé d'argile, c'est Rome. Et donc, la Grèce est comparée à de l'argile, non, pardon, à du cuivre, à des hanches de cuivre. Et le Maharal fait remarquer une chose très importante, c'est que l'agression de la Grèce contre Israël a eu pour point de départ le kidnapping, l'enlèvement des filles d'Israël. Or justement, les hanches, c'est le lieu de la nudité, c'est le lieu de l'inceste. Et ça veut dire que très souvent, quand il y a une confrontation au niveau intellectuel, par exemple, quand un jeune homme vous dit « Kvod Arav, j'ai des problèmes philosophiques, j'ai des interrogations métaphysiques », il faudrait lui demander « Et ta copine ?» D'accord ? Il y a un rapport entre les deux, souvent, pas toujours, mais souvent. Et c'est ça que le Maharal fait remarquer. C'est-à-dire que lorsqu'on s'attache à la Kedusha, lorsqu'on s'attaque à la Kedusha d'Israël, ça entraîne au niveau des idées également une superficialité qui devient le problème philosophique. Et donc il faut également tenir compte de cela, ce qui explique d'ailleurs ce que disait, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est fait comme du cuivre. Le cuivre ça ressemble à de l'or, mais c'est beaucoup moins cher. C'est de la pacotille. C'est ce que disait Rabbi Yehuda Halevi, « Al tefatecha chochma yevanit, ne sois pas séduit par la sagesse grecque, Asher en la perot ki imprachim, qui n'a pas de fruits, elle n'a que des fleurs. » Les fleurs, c'est très beau, mais c'est périssable. D'accord ? Et les bonbons, c'est tellement bon. D'accord ? Alors, le judaïsme, c'est des bonbons. Ne prenez pas les fleurs. Bien que les fleurs, c'est plus présentable. C'est plus joli ? C'est plus joli ? Oh, c'est plus présentable aussi. C'est comme vous voulez. À quoi une chanson comme ça? Ah, je savais pas. Oui. Une toute petite dernière remarque, et là j'en finis, hein, c'est vrai. Non, là c'est. Je peux pas jurer, mais enfin c'est promis. Je vais raconter une petite histoire. Vous savez qu'il y avait un juif à Berlin du nom de Hermann Cohen. Hermann Cohen, de son nom juif Yechezkel. C'était un philosophe néo-kantien, le néo-kantisme. Il enseignait ça à l'université de Berlin. Et vous savez que les juifs sont toujours, c'était les plus allemands de tous les allemands. Il y a une fois un goy antisémite qui a demandé à Nahum Goldman, qui était un juif d'origine allemande, il dit, si toi tu es allemand, alors qu'est-ce que moi je suis? Il lui a dit, toi tu es un goy. Et donc, Hermann Cohen enseignait le néo-kantisme à Berlin. Alors c'était extraordinaire parce qu'il expliquait de manière extrêmement développée comment est-ce que le judaïsme, c'est l'application ultime de la morale kantienne. C'est-à-dire que Moshe a étudié la critique de la raison pratique et il a écrit la Torah. D'accord ? C'est à peu près comme ça. Hein ? Bon. Maïmonide aussi, c'est un peu... Bon, Maïmonide, c'est plutôt la critique de la raison pure et les prolégomènes, mais enfin, peu importe, c'est toujours... Les rabbins, en fait, sont des kantiens qui s'ignorent. Alors, vous savez, c'est très noble, vous savez, ce que c'est un Herr Professor dans une université de Berlin, surtout que Hermann Cohen était déjà assez vieux à l'époque. Alors, il y a un petit juif au fond de la salle, c'était Yaakov Gordin, le maître de Manitou, qui a posé une question. Il dit, Herr Professor, quelle place y a-t-il dans tout ce que vous dites au créateur du monde, au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui élut son peuple? Réponse d'Hermann Cohen, il a éclaté en sanglots. Parce qu'il a compris, parce qu'il était, cette question lui a fait comprendre en un quart de seconde, l'abîme qui sépare la révélation qui est adressé à une personne, à une identité, et la philosophie qui parle par abstraction. C'est-à-dire, on ne peut pas réduire une parole à une sagesse. Eh bien, c'est ça, tout Hanouka. Allez, bonne fête.